Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été.
Bienvenue à Compte complet entretien et aujourd'hui, on a l'immense privilège de recevoir Alex Agostino. Alex, qui est un bien connu dans le milieu du baseball, évidemment. Les gens peuvent l'écouter au 98.5, également collaborateur à RDS. Alors, on le connaît comme analyste baseball, mais Alex, c'est pas mal plus que ça. Et là, aujourd'hui, bon, on va essayer d'apprendre à connaître davantage Alex Agostino dans son travail avec les Phillies de Philadelphie, par où il est passé pour se rendre là, et précisément, qu'est-ce qu'il fait avec les Phillies pour aider l'organisation, évidemment, à remporter les grands honneurs. Alex Agostino, merci. Bienvenue à Compte complet entretien.
Salut Marc, ça fait plaisir.
Alex, pour commencer, ton amour du baseball, tu as grandi évidemment au Québec, sur la rive sud à Montréal. Parle-nous un peu de cette jeunesse-là qui t'a fait en sorte que tu as trempé toute ta vie dans le monde du sport, quoi.
Ben, disons, je suis arrivé à Saint-Bruno à l'âge de 5 ans. On était une famille, mes parents étaient des immigrants italiens. Mon père a décidé que Saint-Bruno, c'était une ville d'avenir, une des seules places qui pouvait acheter une maison parce que tout coûtait trop cher où on était à Saint-Léonard puis dans l'West Island. L'amour du sport est venu définitivement de mon père qui, une fois qu'il est arrivé au Québec de l'Italie, c'était le hockey, les Canadiens, les Royaux de Montréal et ensuite les Expos. Il était un grand partisan de toutes les équipes, les Alouettes, tout ce qui se passait à Montréal. Mais le baseball, parce qu'il a été élevé dans le coin de Villeray à Montréal, pas loin du Parc Jarry, ça a été le sport qui l'a attaché au Québec. T'sais, il voulait être comme les gens d'ici. Ça vient vraiment de lui. Puis par la suite, évidemment, j'ai été chanceux dans les associations sportives à Saint-Bruno commençaient. J'ai pu jouer au baseball mineur dans nos équipes intercités, puis avoir des très bons bénévoles entraîneurs qui nous ont fait que j'ai eu du plaisir à jouer. J'ai jamais été au parc de reculons parce qu'un bénévole a fait ci, un bénévole a fait ça. On entend, j'ai été chanceux. J'ai eu des bons coéquipiers. Puis par la suite, évidemment, tu sais, on jouait au hockey, on jouait au baseball, on jouait au soccer. Mais le baseball, je dis aux gens, moi, j'adorais jouer au hockey. J'aimais pas bien ça, pratiquer au hockey. Tu sais, les bandes, puis les si. Mais le baseball, tu sais, je voulais être au terrain à tous les jours. J'ai pas manqué une game à Radio des Expos dans ma jeunesse. On allait de temps en temps au Parc Jarry, ensuite au Stade Olympique. Puis j'ai toujours analysé les matchs. J'ai commenté dans ma chambre en écoutant à la radio, à la télévision, qu'est-ce qu'il allait faire. Puis comme quand je jouais, j'étais toujours comme un entraîneur extra. Mais c'est vraiment venu de ma famille, spécialement mon père. Puis j'avais un oncle qui avait juste 4 ans plus vieux, mon oncle Sam, qui était aussi un grand partisan des Expos, puis qui m'amenait à toutes les parties d'ouverture avec ses chums plus vieux. Imagine, t'as 12, 13 ans, ton oncle a 17, puis tous ses chums, ils t'amènent, puis on va manger après, puis c'était à chaque année. Là. Alors, tu sais, l'amour est vraiment venu de la famille.
Et là, ben, par la suite, évidemment, Alex, ton amour pour le sport, le baseball, t'a amené à travailler dans ça. Ton premier emploi là, dans le baseball, est-ce que c'est là que ça a créé un lien encore plus fort avec le sport?
100%, parce que veux, veux pas, tu sais, moi, j'étais à l'université en éducation physique à l'Université de Montréal. Je jouais au hockey, je coachais au hockey. Je donnais des cours de baseball, mais j'étais pas vraiment, je me dirigeais pas vers une carrière. Je savais pas que je pouvais avoir une carrière. Moi, je voulais jouer pour les Expos. J'avais pas le talent pour le faire. J'ai fini de jouer au baseball junior, 4 ans, Saint-Hubert. Et ensuite, un de mes coéquipiers, Sylvain Saint-Don, il dit, viens donc coacher avec moi avec les Ducs. Et c'est un peu là que ça a commencé avant vraiment mon premier emploi à temps plein à Baseball Québec, parce que pendant les années que j'ai entraîné les Ducs de Longueuil, 2 ans comme adjoint à Sylvain Saint-Don, puis 1 an comme entraîneur-chef, ben moi, je travaillais au cadenas de Brossard. Là. Je gérais des cadres hockey, je gérais des ligues de garage, je gérais le ballon-ballet, tout ce qui se passait sportivement, les écoles d'hockey de Trétiac. J'étais là pendant 3 ans, mais c'était un job où tu travailles de 4 heures l'après-midi à 2 heures le matin. Ça fait pas des longs mariages ou des longs si. Puis malheureusement, pour les cadenas, j'ai décidé de quitter pour une job dans le baseball. Et tout est le destin parce qu'à ma dernière année au Cadillac, un de mes anciens professeurs, Georges Larivière, à l'Université de Montréal, m'avait eu un contrat comme joueur-entraîneur au hockey en France. Division 2, aller coacher les jeunes, jouer 2 fois semaine. Puis j'avais 3 jours pour décider. Puis c'était très difficile. On venait de se marier, on venait d'acheter notre maison. J'ai pris une décision que j'allais rester au Québec, continuer, puis une semaine ou deux plus tard, l'Académie de baseball est créée et on me demande d'être l'entraîneur des lanceurs pendant que j'étais encore au Cadillac. Alors, le destin a fait qu'à l'âge de 25 ans, j'ai choisi le baseball ou le baseball m'a choisi, mais je suis très heureux parce que par la suite, ça a été un emploi à temps plein, demi-tâche avec l'Académie de baseball Canada comme entraîneur des lanceurs et l'autre tâche le matin, après-midi, directeur technique de la Fédération du baseball amateur qui m'a amené vraiment à des rencontres incroyables avec les jeunes joueurs au Québec, à rencontrer des gens comme Claude Raymond, René Marchand, Ron Piché, tous ces gens-là qui étaient des gens que je connaissais par nom, mais je connaissais pas. Tu sais. C'est là que ça a vraiment ouvert les portes pour, hey, je peux peut-être faire une carrière au Québec. Je pensais pas aux expos à ce moment-là, mais les cinq années de 91 à 95 m'ont vraiment formé dans le baseball. Puis c'est Baseball Québec, via toute la grande roue, puis les associés amateurs qui ont fait que j'ai pu devenir qu'est-ce que je suis devenu plus tard, parce que j'étais juste un petit cul qui aimait le baseball, qui est allé en éducation physique, qui aimait enseigner, qui a toujours donné des cours, mais là, de faire une carrière, parce que dans le temps, évidemment, coacher les Ducs de Longueuil comme adjoint là, à l'été pour 1 000 $, c'est pas là que tu payes tes comptes. Hein? Alors, il faut que tu payes tes dus, que tu continues à travailler, il faut que tu payes l'hypothèque, il faut que tu payes le souper, tu veux créer une famille. Mais quand Baseball Québec est arrivé, ça a fait vraiment comme, waouh, hein, c'est le fun. Puis être alentour de tout cet engrenage-là de la province, j'ai pu découvrir cette île, Port-Cartier, faire une de mes premières jobs avec Baseball Québec, c'était de faire le tour du Québec et les Maritimes avec Claude Raymond dans les Académies Petro-Canada aux Jeux.
Ouais.
Des camps dans des différentes villes. Puis Claude Raymond, je ne connaissais que de nom parce que mon père l'adorait. Mon père était de Villeray. Claude Raymond a joué au baseball junior à Villeray. Puis il me parlait de cet homme-là comme un dieu. Tu sais. Puis là, c'est moi qui travaille avec à l'âge de 25-26 ans. Ouais. À faire le tour de la province, puis j'ai découvert un homme incroyable. Et là, ça a le fait que lui a donné confiance en moi. C'est lui qui a fait en sorte que j'ai pu continuer par la suite vers les expos.
Ben justement, en passant, c'est super beau comme histoire. Puis là, ben le petit gars à 25 ans qui travaille au 4 glaces, qui se retrouve avec l'ABC, ça s'est enchaîné pas mal, Alex, par la suite. Et là, ben un emploi après Baseball Québec où tu t'es retrouvé dans le monde du baseball professionnel.
Ouais, ça a été vite parce que c'est 5 ans. J'arrive à l'ABC comme entraîneur des lanceurs avec des joueurs comme Fernando da Silva, repêché par les expos. Ensuite, Michel Laplante, tu sais, qu'on est toujours amis avec aujourd'hui. J'étais passionné. Je me trouvais bon comme entraîneur, mais je savais rien encore. Tu sais, j'avais pas joué professionnel. J'avais joué junior. Je suivais le baseball. On disait l'affaire, je me suis lancé dans toutes les cours possibles, apprendre des meilleurs, apprendre de Claude Raymond. Puis, mais l'enseignement était dans moi, puis là, ça a comme déboulé rapidement. Puis, à la fin de mon stage de Baseball Québec, c'était encore une fois la croisée des chemins. Baseball Canada m'offre l'emploi de directeur technique à Ottawa. Ma femme travaillait pour le gouvernement fédéral à Montréal. Et les expos sont dans les parages, mais une semaine plus tard, je dis non à Baseball Canada pour la raison que je veux continuer à Baseball Québec. Je veux vraiment continuer à voir l'ABC s'améliorer. Une semaine plus tard, Kevin Malone m'appelle pour me faire une entrevue parce qu'il y a eu la grève, il y avait maintenant un poste d'ouvert. Puis c'est comme, quoi? J'ai dit, oui, je reviens de Chicago d'une conférence de coaching. Je vais être au bureau. Puis le lendemain, il m'appelle pendant la grève entre 1994-1995 pour m'offrir un poste à temps plein. Et j'ai terminé mon année avec l'ABC qui finissait au mois d'avril-mai. Et j'ai débuté en même temps avec les expos comme dépisteur, mais engagé par le DG Kevin Malone et non le directeur du recrutement qui était Eddie Creech à l'époque qui avait joué dans les mineurs avec les expos. Puis là, c'est comme, je me lance là-dedans, puis c'est une job, pas beaucoup d'argent, une tonne, là, je veux dire, parce que c'est pour les 6 prochains mois, puis on verra. So, je quitte un emploi stable de Baseball Québec pour aller faire 6 mois parce que les contrats vont souvent jusqu'à la fin octobre, puis on va voir après. OK, on essaye, puis je me suis lancé là-dedans. Voici ton radar, va te chercher un chronomètre, puis personne ne t'a dit quoi faire. Mais j'avais eu l'opportunité de travailler un an en temps partiel en 91 pour le baseball majeur, le Major League Scouting Bureau, parce que j'étais à Baseball Québec. Ils avaient ouvert un bureau au Canada, puis ils avaient engagé un gars dans chaque province. Puis là, j'avais eu un cours, un cartable, c'est quoi les jargons du dépistage, là, comment qu'on donne des notes pour la course, la frappe, ces choses-là, puis c'est quoi les moyennes des majeurs, ça, c'est vraiment étudié, c'était comme un cours. J'aimais pas bien ça étudier à l'université, mais ça, je pouvais étudier à tous les jours, étudier la physiologie, la biomécanique, ça m'intéressait pas, mais l'enseignement, toutes ces choses-là, puis des chiffres, j'ai toujours adoré, et c'est là que les expos Kevin Malone m'a engagé pendant la grève. Puis j'ai pu commencer à travailler, à faire, tu sais, pour faire l'Est du Canada pour cette année, puis on verra. Puis à la fin de l'année, ils ont décidé de me commanditer et m'envoyer au Major League Baseball Scouting School. Et c'est là que vraiment j'ai appris c'était quoi le baseball. C'était à Lakeland pendant le camp automnal des Tigers de Détroit. On était une trentaine de gars pour les 30 équipes, un par équipe, qui allait maintenant savoir comment écrire un rapport, comment faire le travail de débuteur, comment aller chercher l'information. C'était une semaine par M. Don Priest, qui était le directeur général du MLB Scouting Bureau. Et là, à ce moment-là, c'était comme, oh my God, wow, tu sais, c'est ça qu'il faut faire, comment qu'on travaille, comment qu'on envoie des lettres aux équipes, aux joueurs, comment qu'on rencontre les joueurs. À la fin de ce camp-là, c'était le mois d'octobre, les Instructional League, fin de saison. Puis, on m'offre un contrat vraiment à temps plein. Continue de ce que je faisais, mais maintenant, pour 12 mois, et j'ai pu faire ça. Puis ça, ça m'a permis, les gars, de faire des camps à Saint-Bruno, d'aller enseigner au Collège Charlemagne dans le baseball hockey. Et ça a été vraiment le début de l'aventure qui, maintenant, est à sa 31e saison de suite pour le prochain repêchage.
C'est complètement fou, Alex. Puis, en fait, la question que j'ai pour toi, c'est le premier mandat de 6 mois que Kevin Malone un peu t'a demandé. Comment un dépisteur se démarque? Tu comprends ma question? C'est, tu sais, je veux dire, il y a des fois des emplois précis, on veut des chiffres, on veut ici, on veut ça, mais un dépisteur, pour faire bonne impression à l'intérieur d'un 6 mois, c'est quoi? C'est de découvrir une perle rare? C'est d'avoir des rapports qui font... comment on se démarque?
Non, la façon dont tu te démarques, c'est par ton travail acharné. C'est non négociable, si tu es dans le temps spécialement, mais même aujourd'hui, c'est le travail, c'est d'aller au terrain, to dig, t'sais, de creuser, d'appeler un coach, d'aller voir dans des places où les autres ne vont pas. C'est vraiment ton travail, ton sens de l'organisation, puis de remplir les mandats demandés. Parce que, un exemple, tu découvrais le rare joueur, c'est très difficile. Mais ma première année, j'ai mis Pierre-Luc Laforêt devant Kevin Malone. Parce que j'étais en Floride, je n'étais pas vraiment en contact avec mes scouts aux États-Unis, parce qu'il venait pas au Canada, mais mon mandat, c'était l'Est du Canada pour les 6 premiers mois. C'était l'ABC, les Ontario Blue Jays. Mais c'était à tous les jours d'être une partie, d'aller voir des joueurs, de faire des rapports. Les rapports, t'apprends, t'es meilleur avec le temps. Je veux dire, c'est... Puis la dernière chose, c'est de savoir évaluer les outils. Puis ça, ça se voit rapidement dans un, dans deux, si t'es capable d'évaluer les outils. Les outils au baseball, c'est Marc, courir, lancer, attraper, défenser, frapper avec puissance. Puis là, de savoir un jeune de 16-17 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? En amenant un Pierre-Luc Laforêt au stade, workout, Kevin Malone en habit avec sa chique de tabac qui frappe des roulants, Pierre-Luc qui frappe dans la cage au stade olympique. Bon, je l'aime, lui, parfait. On le repêche en 15 ou 16e ronde. Puis c'est un gars qui joue 17 ans professionnel. Donc, tout ce que tu fais dans le passé fait en sorte que tu continues à des building blocks, qu'on appelle en anglais. Puis là, ta réputation est faite, parce que c'est pas parce que tu as repêché un gars en première ronde que tu es bon. Tu sais, le gars qui a repêché Alex Rodriguez first overall, c'est pas parce que tu es un bon scout, il est premier overall de son enquête. C'est d'aller vraiment trouver des autres joueurs, des joueurs qui sont sous le radar, puis de travailler de ce moment. Mais si tu es un travailleur acharné, si tu es organisé, et si tu sais, pas nécessairement écrire les plus beaux mots là, sur le rapport, mais d'évaluer correctement le futur du joueur, c'est ça qui fait en sorte que tu vas pouvoir être là longtemps. Mais il faut que tu sois un peu, comment je te dirais, il faut que tu y ailles overboard un peu. Il faut que tu lises les statistiques, il faut que tu parles au coach. Dans le temps, on le fait moins souvent, mais je parlais, arrivé de bonne heure, j'allais à la direction de l'école, parler du joueur étoile de telle école, qui est le star, comment il est avec les autres, il est-tu problématique avec les professeurs. Il faut que tu ailles above and beyond, tu sais, vraiment, de ce côté-là. Puis là, plus que tu le fais, plus que tu vois des parties, plus tu peux compter des comparables. Puis avec les expos, ce que j'ai été chanceux, c'est que j'avais beaucoup de minor league coverage dans le temps. Aujourd'hui, on a des départements pro qui est tout analytique. Dans le temps, c'est nous autres qui allaient voir du A2, A3. Ça, je pouvais passer le printemps à voir des écoles secondaires, des académies au Québec, des petits games de collège aux États. Puis tout de suite après le draft, ben, t'es dans le pro. Ah, c'est ça qui joue dans le A. C'est Mark Griffin qui est dans le A, qui court là. Quand je vois un bon joueur, que quelqu'un m'appelle à Plattsburgh parce qu'il était chum avec Bill Stoneman, hey, j'ai un lanceur, il peut lancer. Tu vois là, puis il lance 82. Je dis non, il lance 89-91 dans le temps. Là. T'appelles Bill Stoneman, ton chum, il est fin, mais ce gars-là, il va jouer même pas collégial. T'sais. Merci, t'es allé. Soit tu fais ces choses-là. Puis à ce moment-là, ben, c'est l'organisation puis les contacts que tu crées par la suite. Aujourd'hui, grande différence. Moi, j'avais 30 ans quand j'ai commencé avec les expos. De 21 à 30 ans, j'ai œuvré comme entraîneur, comme enseignant, comme directeur technique, comme entraîneur des lanceurs, entraîneur de l'équipe nationale en 94 aussi, que j'ai oublié, avec des joueurs comme Éric Gagné dans l'équipe, Éric Boisjoli, Benoît Hamon, un championnat du monde. J'ai tout œuvré avec ces affaires-là pendant 9 ans. Aujourd'hui, 22 ans, gradué en statistiques avancées, ils sont dépisteurs avec leur téléphone, avec leur caméra, puis ils écrivent des notes, puis ils s'en vont. Nous autres, après le game, j'allais parler avec Claude Pelletier, avec Wayne Norton, avec des René Marchand, lorsque j'étais à Baseball Québec, pour apprendre. Puis c'est quoi qu'on regarde, comment qu'on regarde, pourquoi tu fais ça, c'est quel type de joueur qui fait ça. Puis l'autre affaire, c'est de savoir, pour moi qui est très important, c'est d'être quelqu'un qui connecte avec les gens. Quand ouais. Un coach, le joueur, la famille, quand tu rentres dans la maison chez quelqu'un, puis tu représentes les Expos, les Marlins, les Phillies, ça, c'est la première impression qu'ils ont de ton équipe organisationnelle. C'est pas de Rob Thompson, notre gérant, ou de Bryce Harper. Là. C'est le gars qui rentre chez moi, comment il nous traite, de quoi il parle. Puis ça a été quelque chose que j'ai toujours eu une force. Puis même, j'ai été envoyé souvent avec les Phillies, avec nos jeunes dépisteurs dans des maisons de prospects pour faire l'entrevue avec eux autres, pour leur donner un petit peu comment rendre les gens à l'aise de ce côté-là. Puis je reviens. Work hard, gros travail, travailleur acharné qui fait beaucoup de choses, savoir évaluer vraiment, savoir connecter avec les gens.
En tout cas, j'ai pas de misère à te croire que t'es un bon vendeur, mais un bon représentant de ton organisation. Tu sais, ta facilité de t'exprimer, ton aisance, justement, de mettre les gens inconfortables, je peux le voir facilement. Puis tu me fais penser, Claude Pelletier, moi, avait été le premier contact avec les Dodgers, alors que Claude... Ouais. Alex, tu vas peut-être t'en souvenir, mais tu sais, Claude était un bird dog. Là, donc, t'es un ami de l'organisation, t'es même pas un emploi. Mais ça avait quand même été une très bonne impression, je te dirais.
C'est pas juste te dire que ces gars-là là, qui ont fait ça dans le temps, bird dog, c'est tellement important. Puis aujourd'hui, on a comme tassé de tout ça, malheureusement, parce qu'on veut juste les chiffres, puis on veut pas le joueur. Puis là, tu le vois des fois que ces types de joueurs-là, ils font pas long feu parce que le dépisteur de région ou le dépisteur comme un Claude Pelletier, il connaît le joueur bien plus que le dépisteur en chef. Lui, il va juste voir le talent, savoir, il va-tu être bon dans les mineurs, comme, il va-tu bien s'encadrer avec les autres joueurs, il va-tu juste sortir à tous les soirs, puis boire à tous les soirs, il va-tu, aussitôt qu'il les auront en quatre, il va pleurer, puis il va quitter. Tu sais, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes. Le joueur, c'est pas en une rencontre de 15 minutes que tu sais ça. Puis d'être honnête avec le joueur, le parent, d'être honnête avec ton évaluation aussi, très important.
Mais je veux qu'on revienne un petit peu aux Expos, mais juste avant, Alex, tu m'ouvres un petit peu la porte, mais tu sais, dans le fond, toi, il faut que tu, je dis toi, là, tout le monde des dépisteurs ou des cross-checkers dans ton cas aussi, là, mais dans le fond, là, tu regardes un jeune, soit du high school, qui a 18 ans ou 17 ou 18 ans quand tu le vois jouer, ou s'il est au collège, mais faut que tu l'imagines dans 5 ans un peu. C'est de l'anticipation, donc c'est pas une science exacte. Ça doit quand même être... T'sais, même avec l'expérience, ça ne doit pas quand même être un rôle facile de dire, OK, lui, il a des atouts, il est bon, il vient d'une bonne famille, mais il va avoir l'air de quoi dans 5 ans? Ça n'a pas été évident. Hein?
C'est pas évident. Puis la statistique ou le chiffre de scouting, ça s'appelle OFP, Overall Future Potential. C'est un numéro de 20 à 80. 80, c'est le meilleur au monde, puis 20, ben, il ne joue pas longtemps. C'est 50, c'est la moyenne. Si tu mets un 50 sur sa course, parce qu'il est moyen dans la course. Il court 4-3 du marbre au premier de la droite. Son bras, du l'arrêt court, il est 84. C'est moyen, il n'est pas 92. Alors, tu sais, tu as des grades que tu mets sur le joueur. Évidemment, tu vois un gars de 17 ans qui n'a pas de barbe, qui est long, élancé, il a des bonnes actions athlétiques, tu peux projeter. Alors, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un 40. Il est en bas de la moyenne, son bras, mais à cause de la facilité, comment il lance, comment il bouge, avec musculation, nutrition, dans 3-4 ans, ce gars-là, ça va être un 55, un 60. Toi, tu projettes. Ça, c'était quand j'ai commencé. Tu fais rêver. Les Expos, c'était une organisation qui rêvait beaucoup. Aujourd'hui, complètement différent. Moins d'équipes d'un mineur. Moins de rôles. Moins de chances de rêver. Tellement d'informations. Puis avant de choisir un joueur, c'est comme 12 personnes qui doivent dire « Oui, on le prend. » Dans le temps, Pierre-Luc Laforêt, en 16e ronde, c'était moi. Là. Puis à cause que le DG l'a vu, on le prend. Puis on passe au prochain appel. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup compliqué. Mais ce qui est de plus en plus difficile, ce qui est difficile pour un jeune dépisteur, c'est vraiment ça, c'est la projection. Parce que si t'es pas capable de projeter, jamais que tu vas faire de quoi. Mais de plus en plus, le gars projection, il est plus tard dans le draft ou il va au collège. Parce que les équipes ne veulent plus donner de l'argent tôt. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, qui m'amène vers la fin de ma carrière, parce que moi, j'ai adoré projeter des Laforêt, des Sean Hill, des Russell Martin, des Eric C, des Édouard Julien, qui aujourd'hui, t'as comme plus droit. Ah oui, c'est parfait, mais tu sais, on va le voir au collège dans 3 ans. On veut plus se tromper, parce que veux pas, tu tombes beaucoup plus que tu as raison. Il n'y a pas une tonne de jobs dans les majeurs. Il y a des grands gars de talent qui vont jouer, puis ils arrêtent de frapper ou c'est plus difficile, puis ils ne sont pas dans les majeurs. Ça veut dire que ce joueur-là, c'est pas un bon joueur. Non, c'est juste que la pyramide pour aller là, elle est très, très difficile. Mais la projection compte encore. Et c'est là, comme dépisteur, que tu dois voir si un gars, il est-tu fini à 17-18 ans. Donnez un exemple d'un Québécois, Guillaume Leduc, qui travaille à Québec dans les sports études. Il a joué professionnel. Ouais. Ouais. Lui, il était, je pense, au Collège Charlemagne ou dans les camps de baseball quand il avait 13-14 ans. Bon athlète. Mais il était grand, mince. Il n'était pas encore explosif. C'était un gars qui jouait dans le A, c'était pas une étoile, mais tu voyais dans ce jeune-là qu'il avait des atouts athlétiques parce qu'il joue au tennis, au hockey, au baseball, qui, si on est patient, il va progresser. Et il a continué à progresser. Il est arrivé à l'ABC à des bons moments. Il a joué derrière Philippe Beaumont. Il s'est fait voir par des dépisteurs. Puis boum, repêché en 6e ronde. Mais à 12, 13 ans, 14 ans, personne parlait de Guillaume Leduc. Mais il y avait sûrement plein de coéquipiers, Guillaume Leduc, qui avait déjà de la barbe à 12-13 ans, qui ne jouait même plus à 16 ans. Alors, tu sais, ça comme dépisteur, parce que je l'ai vu plus à 14-15, faut que tu penses à ces occasions-là. Mais c'est une science inexacte. Et avec tous les nouveaux responsables et data analytiques, on essaie d'être trop parfait là-dedans. Et on a enlevé un petit peu la job du dépisteur de territoire. Alors, on verra, là. Mais moi, je trouve ça difficile de plus en plus. Puis c'est quelque chose que j'aimais le plus faire.
Ben, écoute, Alex, c'était très intéressant. On va s'arrêter juste quelques secondes pour souligner notre partenaire Baseball Québec avec Compte Complet Entretien. On revient dans quelques secondes.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alex, écoute, c'est tellement intéressant. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu. Avec tes années des expos, je veux savoir, est-ce que tu avais un mandat, puisque tu t'occupais pas mal de l'Est du Canada, là, mais est-ce qu'on avait un mandat de vraiment dénicher, par exemple, un gars du Québec? Est-ce que, à tout prix, ou tu faisais des rapports sur des Russell Martin, justement, ou des gars que tu voyais? Comment ça fonctionnait exactement, ton rôle vis-à-vis là, les joueurs québécois et canadiens, là, dans le fond?
Marc ouvre une porte qui me fait mal. Et ma première année, la première année, quand j'étais là avec Kevin Malone, j'ai adoré ma première année en 95 pour les 6 mois avec Kevin. J'étais au stade à tous les matchs. Après ça, j'allais voir des matchs juniors. On repêche Pierre-Luc Laforêt. Mois de juin, il va jouer dans les mineurs un peu. Il a mal au dos. L'équipe décide qu'il y a une blessure au dos qu'on peut pas. Notre docteur, Dr. Cook là-bas, qui résilie le contrat à Pierre-Luc Laforêt, 17 ans signé pour 5 000 $. Abattu, on m'appelle, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, j'appelle le directeur des mineurs, Bill Guyvette, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix, c'est de la... il y a 17 ans, c'est un kid du Québec, he's just growing, c'est la saison finie, Kevin Malone s'en va, nouveau directeur général Jim Beatty, nouveau directeur dans les mineurs de dépistage, puis là, j'ai jamais eu de mandat, j'ai jamais eu d'aide, c'était comme, t'es gentil, t'es bilingue, fais le Canada maintenant pour nous autres, occupe-toi des médias. C'était des gens compétents, des gens le fun, là. Mais c'était des gars qui n'avaient aucune idée c'était quoi Montréal. Et je ne peux pas les blâmer. C'est des gens qui ont joué dans les mineurs, qui sont là, qui aimaient les expos. Jamais eu de meeting à Montréal, toujours à Lantana ou à West Palm Beach. Et aucun mandat de la haute direction qui, malheureusement, puis je ne veux pas le planter, mais Claude Brochu, il n'y a jamais eu rien de dire, hey, on est fort là-dedans, on fait ça. Alors, fais ta job. Moi, je mettais des noms de joueurs, que ce soit des Russell Martin, des Eric Sir à chaque année. Tu n'en as pas 40 au Québec, là.
Ouais.
Puis, tu sais, va faire ça, puis on va regarder ta liste, on va jaser, on va parler au repêchage. On prenait toujours des joueurs parce qu'ils étaient conscients que c'était des Québécois ou des Expos. On prenait des Charles Dubuc-Tard, des Éric Charon, Il y en a qui ont signé, il y en a qu'on n'a pas signé, comme Eric Say, qui est allé au collège, on ne l'a pas signé parce qu'on manquait de visa. Russell Martin, notre dépisteur en Floride, a dit non, c'est un gars de collège. Mais si quelqu'un à Montréal, québécois, mettait en charge, disait, lui, tu le signes, m'en fous. Comme les Blue Jays ont fait pas mal tout au long de leur histoire, ça aurait été beaucoup plus le fun. Ça m'a rapidement, j'ai eu une job de rêve parce que c'était des expos. Moi, je m'en foutais, j'aurais fait n'importe quoi pour des expos. Mais c'est rapidement devenu, à l'avenue de la nouvelle direction, que non, c'est pas si important que ça. Là. C'est des joueurs. D'autres ont vu des bons joueurs. Puis, tu sais, au lieu de dire, moi, mais à 50 rondes dans le temps, puis à toutes les équipes qu'on avait dans les mineurs, t'en mets un de plus ou deux de plus à chaque année, peut-être qu'ils ne joueront pas dans les majeurs, mais ces gars-là reviennent être des entraîneurs, être des ambassadeurs. Le nombre de Blue Jays qui ont joué dans les mineurs pour les Blue Jays, qui sont à travers le Canada, qui coachent aujourd'hui, qui sont des dirigeants d'académie, c'est partout. Ouais. Là, à Montréal, évidemment, ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas là, mais ça m'a vraiment comme devenu, ben là, c'est un travail. Finalement, tu sais, j'avais New York, j'avais Maine, Vermont, New Hampshire, on me donnait un petit peu plus de choses à chaque année, mais encore une fois, c'est des États qui n'ont pas beaucoup de baseball. Tu mets des noms, on a signé des joueurs. On a signé des joueurs de l'Université de Vermont plus que des gars du Québec parce que on avait les Vermont Expos qui jouaient dans la Ligue New York Penn. À chaque année, je signais un gars de l'Université de Vermont, ben, j'avais une bonne entente avec l'entraîneur, mais j'étais prêt de signer un Québécois pour jouer le rôle de quatrième voltigeur ou le backup catcher. Alors ça a été pour moi difficile parce que moi, je saignais comme toi, Marc, Expos Blue.
Tu parles, Alex, là, puis moi aussi, on a ouvert une canne de verre, finalement, avec ma question.
Ouais, c'est que on avait quelque chose de tellement bien, puis on n'a jamais fait confiance aux gens d'ici. C'est au côté baseball, puis j'ai travaillé avec Fred Ferreira, qui était dépisteur international. Je faisais des camps l'hiver à son académie Play Ball à Pompano. Parce que l'hiver, les expos me payaient, puisque on n'a pas besoin de toi. Dans le temps, le dépistage de septembre à mars, là, pas grand-chose qui se passait. Tu vas voir l'ABC pratiquer en dedans, tu vas voir les Ontario Blue Jays frapper dans leur cage, mais il n'y avait pas du travel baseball, le baseball d'automne. T'sais. T'sais, là, je faisais mes camps de baseball avec mes jeunes, on allait à Pompano avec Fred, puis Fred était comme, oh, tu fais bien ça, puis tu devrais travailler avec nous autres au niveau international, ou tu devrais venir au camp d'entraînement. Mais non, j'allais à tous les camps d'entraînement lorsque j'étais avec Baseball Québec, lancer les BP, mais une fois que j'étais avec les expos, j'étais comme, tu fais ton rôle, puis c'est tout. Et à ce moment-là, t'es comme, je vais en faire plus pour les expos. Et Fred Ferreira avait approché BT et Bindfest pour dire, hey, il peut être dans le bureau l'hiver, là, il peut faire de quoi pour vous autres. Et il a fait des camps avec moi, c'est une bonne tête de baseball. Non, on est correct, on n'a pas besoin de personne dans le bureau. Puis là, c'est comme, OK, tu fais ta job de dépisteur, t'es payé, tu fais ce que t'as à faire, va faire les caravanes expo, représente les expos, un tournoi de hockey, va dropper des pucks. C'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Puis là, c'est comme, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 7 ans parce que on sait qu'il y a eu toute la situation au Loria puis mon déménagement avec les Marlins de la Floride. Mais, tu sais, j'ai une bonne. J'adore mon temps avec les expos parce que ça m'a aidé à former en tant qu'entraîneur puis ils ont été très corrects avec moi, les dirigeants. Mais en même temps, c'était comme, tu travailles pour rien. Tu travailles juste pour représenter l'équipe à la radio, tu travailles pour représenter l'équipe quand tu es au terrain puis. C'est comme, il fallait que je dise à des dépisteurs puis à des entraîneurs des mineurs, c'était quoi Montréal, leur dire, je me suis fait demander une fois par un coach 3 qui s'en venait à Ottawa, y a-tu des lacs au Canada? Parce que moi, j'aime ça pêcher. J'ai dit non, il y a juste des igloos, puis je suis parti. C'est comme, tu niaises, là, c'est le Canada. Mais le gars, il venait de, tu sais, quelque part dans le Tennessee, lui, il avait joué dans les mineurs toute sa vie, il était un coach des lanceurs, puis Ottawa venait de rentrer avec les expos, puis il a été assigné là, puis lui, ça n'a pas c'était où, Ottawa, là. Quand elle m'avait demandé ça,
C'est clair, Alex, puis tu sais, on a tous vécu ça, là, ceux qui ont vécu aux États-Unis, là, c'est en tout cas, on n'embarquera pas dans ça, mais je pense qu'on vient de réaliser, par contre, qu'on pourrait faire une émission, pratiquement là-dessus, sur parce que moi, ce que je disais, si éventuellement il y avait un retour des expos, je disais, faut apprendre de nos erreurs, puis on en a fait beaucoup d'erreurs à l'époque.
Mais Marc, il y a tellement de gens qui ont passé par là qui étaient des interns. Neil Huntington, qui a été DG avec les Cleveland, avec Antonetti avec les Guardians, Dombrowski, Duquette, avant ces gens-là, qui ont été DG avec nous autres. Mais il y avait beaucoup d'interns. Il n'y en avait pas d'interns de l'Université de Concordia ou de l'Université McGill ou de l'Université de Montréal ou de l'Université Laval qui auraient pu être des futurs Alex Antopoulos. un exemple, Alex Ottobla, c'est pas avec les dirigeants des Expos qui a fait sa marque, parce qu'il travaillait pour, quand c'était le baseball majeur qui avait l'équipe. Alors, tu sais, nous autres, on n'a jamais cru en ces gens-là. Puis on parle de gens qui, au début, là, Antonetti, là, puis Huntington, ils donnaient le café, là. Ils faisaient des photocopies, là, puis ils étaient à l'entour du monde. Mais ils étaient dans le bureau. Ouais. Quand tu es dans le bureau à côté du DG, tu fais des affaires sur les contrats, tu jases, ben, bang, tu montes, là, hop, une nouvelle job qui s'ouvre. Mais on ne pouvait pas dire à René Marchand, Mark Griffin, Denis Boucher, Alex Agostino, hey, l'hiver, on fait ça, on a des jobs de baseball aussi, peux-tu apprendre sur l'arbitrage, peux-tu apprendre ci? Non.
C'est sûr que là, Alex, on est un terrain dangereux là-dessus parce qu'il y a beaucoup de frustrations qui ressortent.
Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé, Marc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé. C'est loin parce que moi, je suis heureux de ce qui s'est passé par la suite et spécialement ma 20e saison avec les Phillies aujourd'hui. Là, les choses s'arrangent bien.
Exactement, Alex, tu fais bien de le dire. Tu sais, on peut pas vivre dans le passé. Puis je pense que effectivement, tout ce qui nous est arrivé, là, je parle quand je dis nous, là, les employés des Expos, les gens du Québec qui travaillaient, ça nous a quand même aidé à nous former puis à devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. T'as eu évidemment, t'en as glissé un mot rapidement, Alex, mais t'as eu ton passage avec les Marlins. Tu sais, il y a eu les Expos, on en a parlé. Là, il y a le passage. Est-ce que je pourrais peut-être appeler ça un passage forcé avec les Marlins, puis par la suite avec les Phillies. Parle-nous là, de ce pont-là avec les Marlins.
Ben, c'est un pont, c'est facile. Tu sais, quand les Expos ont été pris en main, puis Marlins, Laurie est parti aux Marlins, notre dépisteur-chef, là, qui était Jim Fleming à l'époque, un bon gars d'Oklahoma, qui est maintenant à temps partiel avec les Phillies, qui fait les frappeurs, appelle tous les dépisteurs, puis il dit, on s'en va. Laurie amène tout le monde, il amène son staff, on vous donne 5 000 chaque. Je ne sais pas si tu le sais, 5 000 dans ce temps-là, à 36-37 ans, avec ton salaire que tu faisais là, comme dépisteur, où tu restes à Montréal, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont garder des dépisteurs, on ne sait pas si c'est un job. Ça, c'était assez facile de dire, ben, on s'en vient, il n'y a rien qui change, on est tous le même groupe, on s'en va travailler là. Alors, c'est un passage qui n'a rien changé en termes de mon travail, Canada, Upstate New York, Maine, Vermont, New Hampshire. Puis là, quand je te disais qu'à Montréal, on s'en foutait des Québécois, ben là, c'était deux fois pire. Là, c'est comme, va faire ton travail, amène-nous des noms. J'amenais Justin Morneau, puis oh, il est pas bon. Joey Votto, on sait pas.
Incroyable.
Je faisais l'équipe nationale. On croyait pas à ces joueurs-là. J'ai signé Olivier Lépine, qui a frappé 340, puis a été retranché après un an, des capitales de Québec. Une couple de joueurs après le draft, mais ça a été comme 4 années. Perdu en termes de mon développement parce que c'était comme tu fais ton travail, je commence à être un meilleur dépisteur. Je connais des gens, New Hampshire avait du bon baseball collégial dans ce temps-là, Vermont, ils n'ont plus de baseball. Mais c'est comme pourquoi je suis ici? Là, ma paye rentre à chaque semaine, mais t'es comme tu te demandes. La beauté, c'est que j'ai pu travailler pour une équipe aux États et on a gagné une série mondiale contre toute attente en 2003 qui a été comme. La première fois de ma vie que j'étais avec une équipe dans les séries, Miami, personne n'était au game, mais dans les séries, c'était 60, 65 000, c'était l'euphorie. On a été finalement traité très bien par Loria et son groupe. La première série, on était là avec, moi, j'étais là avec mon épouse. Ensuite, en série mondiale, tout le monde a été réinvité. Ils nous ont donné de l'argent de poche, ils nous ont donné une bague incroyable. Ensuite, un bonus après la série mondiale, un montant qui nous a permis à moi, ma famille d'aller à Disney World. Tu sais, c'est comme, waouh, mais après ça, on repêchait personne. Ça. À la fin de l'année 2004, c'est comme, tu sais, je m'en attendais. C'est comme, bon, ben, Alex, on coupe le poste. Tu sais, là, t'as comme, t'es rendu à 39-40 ans. Ça fait maintenant 11 ans que tu fais ça, plus les 5 années à Baseball Québec. T'as 40 ans, 2 jeunes enfants. Hypothèque, toutes sortes de choses à payer. Mais ben oui. Ben, on aimerait ça t'aider à. Si tu as besoin d'une lettre de recommandation, si tu as une équipe qui veut t'engager, mais nous, les Marlins, on n'a pas d'argent, on coupe le poste au Canada, on ne te remplace pas, là, on te congédie pas. Je dis, non, tu ne me réengages pas. Puis c'est comme, hey, les boys, c'était le 1er septembre, coup de téléphone, les gars, tu sais, c'était jamais facile de dire ça. Le 3 septembre, j'enseignais au Collège Charlemagne, sport-études de hockey. Puis je continue mon programme de baseball au Collège Charlemagne, je l'ai fait pendant 10 ans. J'ai toujours eu quelqu'un qui était comme là pour moi. On dirait que c'est comme le rebond, le karma. J'avais déjà été au Collège Charlemagne comme à faire du baseball, un programme qu'on a bien développé. Et là, à ce moment-là, le directeur de l'école, je l'appelle, je dis, hey, je fasse la suppléance, moi, je suis prêt, j'ai pas de job, là, j'ai 40 ans, j'ai pas d'emploi, je fais mes petites écoles. Il dit, hey, on a quelque chose pour toi, viens-t'en. Le gars de hockey, Martin Russell, qui est coach, déjà trois, qui est prof d'édu, qui s'occupe du sport-études, il y en a trop. Peux-tu rentrer les matins, faire le sport-études hockey, toute la paperasse, toute la gestion des pratiques, puis... Sure. Le lendemain, j'étais là avec mes patins, puis je travaillais avec Mario Duhamel, qui est entraîneur adjoint avec Utah, avec Alexandre Dandeneau, qui est un excellent homme de hockey qui va encore au Québec. Puis j'ai fait ça pendant une année scolaire, puis j'ai trippé au bout. L'après-midi, je faisais du baseball. Puis le soir, j'étais à la maison. Puis Colin, OK, tu n'as pas une tonne d'argent, mais tu sais quoi, c'est le fun, la vie est belle. Et le destin, encore une fois, nous fait que Baseball Québec est un petit peu entre deux. Ça, les expos étaient comme, je pense, à ce moment-là, parti, 2004, c'est leur dernière année. On s'en va. Je reçois un appel pour une entrevue parce que là, l'ABC cherchait des coachs. Alors, je peux peut-être coacher l'après-midi, faire le collège Charlemagne. Tout d'un coup, ben, on me réoffre le poste de directeur technique. Puis j'ai embarqué dedans quand c'était la période la plus morose, je pense, que du baseball au Québec. Pas de baseball au Québec, mais du baseball. Ouais. Et j'ai décidé de prendre un livre de Larry Smith, des Alouettes, puis dire que tout va bien, que le baseball est fort, puis on a ouvert des sports études partout. J'ai dit au Collège Charlemagne que je remercie toute ma vie. Le directeur Roger Côté s'est toujours occupé de moi. J'ai dit, là, je m'en vais dans Baseball Québec, je m'en vais faire ça à 100%. J'étais engagé par Baseball Québec pour commencer l'année au mois de mars. Et les Phillies, via un contact, m'offrent un job à temps partiel pour rester dans le game pour un petit montant. Comme dépisteur à temps partiel, fais-nous le Canada. On sait que tu as un job, on ne peut pas te payer un salaire à l'année, mais donne-nous les meilleurs joueurs. Puis c'est là que j'ai commencé avec les Phillies à ce moment-là, de 2005 à 2009. J'ai été à temps partiel au Canada. Mais à chaque année, on me donnait plus, pas une tonne d'argent de plus, mais plein de nouvelles tâches. Puis là, à un moment donné, ça a été comme, ben là, ma job, c'est Baseball Québec. Puis là, j'adorais ce qu'on faisait à Baseball Québec. J'adorais où les sports-études s'en allaient. J'adorais que de plus en plus de monde travailler dans le game, puis c'est comme, wow, c'est le fun, puis t'arrives à un certain point, ben les Marlins, c'est du passé, je suis content d'avoir eu ma série mondiale, des bonnes personnes, les députés avec qui je travaillais, c'était des gens corrects, mais tout le reste, c'est comme, maudit que t'es un numéro, puis ça va pas bien, mais le retour à Baseball Québec, là, à 40-41 ans, a fait en sorte que 20 ans plus tard, tout ce qui s'est passé avant, qui était peut-être moyen, a fait en sorte que c'était comme, on dit en anglais à des joueurs, part of the process. Ça faisait partie du processus pour arriver où je suis rendu aujourd'hui. Et je suis mille fois une meilleure personne de baseball aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Puis 10 000 fois plus que il y a 40 ans quand j'ai commencé dans le coaching. Puis ça, c'est parce qu'il y a eu des embûches. Il n'y a pas eu une ligne droite parfaite. Et il faut que je remercie le Collège Charlemagne qui a comme été là pour m'attraper dans des moments difficiles pour avoir un salaire. Et Baseball Québec surtout, qui ont comme toujours cru en moi comme homme de baseball. Et le fait d'avoir des bonnes personnes à la tête dirigeante qui m'ont laissé faire le partiel avec les Phillies pour rester dans le game parce que tu es au match de l'équipe nationale. Il y a des dépisteurs, il y a des gars chefs, il y a d'autres gars, tu es encore dans le game. Ouais. Et à ce moment-là, quand la cinquième année, les Phillies voulaient continuer. Moi, j'étais heureux de continuer à temps partiel avec eux autres et de travailler à Baseball Québec. Mais je dis aux Phillies, là, vous me demandez presque une job à temps plein pour un salaire de 1/5 d'un gars à temps plein. Je ne peux plus faire ça. Et la chance est venue que les Blue Jays et Alex Antopoulos m'ont fait un offre à temps plein pour travailler avec les Jays et à la fin de la saison 2009. Et à ce moment-là, ben c'était pas une offre alléchante monétairement pour tout quitter pour faire ça. Mais les Phillies ont été obligés de matcher l'offre, qui était maintenant une offre à temps plein. Et j'étais sûr qu'il aurait dit, bon, ben Alex, pour toi, c'était un Canadien, c'est les Blue Jays, puis j'étais sûr qu'il allait dire, va-t'en là. Finalement, ils ont matché l'offre en US. Puis c'est comme, pour moi, ça a été... J'ai jamais eu d'attache. Je suis heureux pour les Blue Jays s'ils vont bien aujourd'hui, là, 20 ans plus tard. Mais j'ai jamais eu le tatou des Blue Jays sur le cœur. J'ai travaillé les expos des Marlins. C'est les expos qui étaient tatoués sur mon cœur. Pas les Blue Jays. Évidemment, si j'avais eu quelque chose qui changeait ma vie, peut-être que oui. Mais c'est une autre décision importante à prendre pour voir qu'est-ce que je fais. J'embarque avec les Phillies à temps plein, puis ça a été la meilleure décision, mais à part de marier mon épouse, là, qui était la meilleure décision de ma vie. Celle-là, probablement, dans mon parcours professionnel, a été une décision vraiment qui a changé là, mon parcours, parce que là, j'avais beaucoup plus de couverture américaine. Travailler pour une équipe qui s'occupait
de dis-moi, Alex, avant de continuer là-dessus, dis-moi, là, l'offre est venue, il t'a dit qu'ils ont matché, là, pour employer ton expression, de l'offre. Est-ce que ça a pris du temps avant de dire oui? Est-ce que ça, la réflexion, parce que là, évidemment...
J'ai pris 24 heures.
Okay.
Parce qu'une fois que les Blue Jays ont fait l'offre, les Phillies m'appellent. Parce qu'il faut que tu envoies ça à l'équipe. Puis l'équipe, mon patron me dit, Alex, donne-moi 24 heures. OK? So, je reçois un appel de Paul Beeston, pas juste Alex Antopoulos. Tu es un Canadien, il faut que tu viennes travailler pour nous. Come on, let's go. OK? C'est-tu vraiment Paul Beeston? Je dis, wow, tu sais, je ne connais pas vraiment. Là. C'est comme, ben oui, mais ben, je change ma vie. Ah, mais on ne sait jamais. Puis là, Alex Antopoulos qui m'appelle. Puis j'aurais adoré travailler avec Alex. Vraiment c'est adoré. Sûr. Mais tu sais jamais, lui, il part. Shapiro arrive. C'était comme une décision. Honnêtement, la décision est venue que j'étais avec les Phillies. J'ai vu comment ils étaient traités. Ils étaient dans la pension du baseball majeur, juste une des quatre équipes. C'est comme je voulais travailler pour une équipe aux États puis faire ma marque aux États. Parce qu'au Canada, on ne veut pas le nombre de joueurs. Il reste toujours restreint. En termes de repêchage, la plupart vont au collège, vont être repêchés plus tard. Là, en ayant une couverture différente, j'ai pu repêcher des joueurs qui sont rendus des majeurs. J'ai pu repêcher des gars tard. Et là, j'ai pu, Alex Agostino, on a pu dire de lui aux États, hey, ce gars-là, c'est pas juste un petit Canadien, un petit gars du Montréal qui est bon dans le baseball. Il sait ce qu'il fait. Hey, c'est-tu toi qui as signé Ben Brown? J'ai eu ça hier. Un jeune dépisteur des Blue Jays qui dit, j'ai vu Ben Brown, shout-out les... Je suis allé sur son parcours. C'est toi qui l'as signé. Ouais. What a sign. Comment tu as fait ça? Il y a une couple de jeunes dépisteurs que j'aime bien, qui aiment jaser avec les plus vieux. C'est un gars qui a repêché Mason Souharty, qui est maintenant releveur. Puis j'ai dit la même chose. Good job sur lui. Sur là, on a jasé. Là, je retourne sur le processus. Logan O'Happy, tu sais, 23e ronde. Les gens, c'est comme, comment tu as signé ce gars-là en 23e ronde? Où tu l'as vu? Pourquoi? Ben, c'est parce que maintenant, j'avais un territoire où il y avait des joueurs. Ça revient au travail acharné, ça revient à work ethic, d'aller à des games où personne ne va. Parce qu'il faut que tu connaisses, aujourd'hui, les gars d'high school veulent tous des millions pour signer, ils vont au collège, ou presque. Mais tu sais que tel gars, lui, tu lui donnes un certain montant, il signe, il veut jouer au baseball professionnel. Ben il n'attendra oui, pas oui. 3 ans de collège. Mais si, ouais. Si tu ne le sais pas, ça, tu ne peux pas le repêcher, ce joueur-là. Ouais. Alors, ça m'a permis de graduellement montrer à mes patrons, parce que j'en ai eu 3 dépisteurs chefs au Phillies. Marty Wolliver, le premier, il a joué dans les mineurs avec les Expos dans les années 70, que j'ai toujours une belle affinité avec lui. C'est un grand ami de Dan McGinn, l'ancien lanceur des Expos qui a fait frapper le premier coup de circuit. J'ai fait tellement de contacts aux États-Unis que je préfère en faire beaucoup plus au Canada, je trouvais. Moi, je trouvais que j'aimais mieux faire des camps au Québec, continuer à être un ami de l'ABC, continuer à être un ami de Baseball Québec, puis faire grandir le baseball au Québec via des académies, des camps. Exact. De développer des jeunes joueurs, mais aussi de développer des entraîneurs. Le nombre de jeunes que j'ai entraînés, Marc, dans mes académies quand il y avait 12-13 ans, qui sont coachs aujourd'hui, qui ont leur propre académie, le nombre est fulgurant. Alors, tu sais, pour moi, ça a été une belle décision. Ça l'a permis d'arriver au point où je suis aujourd'hui.
Ben, écoute, puis j'en suis témoin, Alex. Là, je sais que tu es très humble dans ce que tu dis, mais effectivement, tu as influencé énormément de gens au Québec. Dans le baseball. J'aimerais, le temps file un peu, Alex, mais j'aimerais qu'on rentre un petit peu là, dans le rôle précis d'un cross-checker. T'es passé d'un dépisteur à un cross-checker. J'utilise l'expression en anglais parce que...
C'est pas en français.
C'est difficile de dire en français, mais juste expliquer aux gens rapidement. Tantôt, on parlait de Bird Dog, donc ça, c'est un ami de l'organisation. Après ça, tu as le dépisteur, puis le cross-checker vient un peu confirmer, là, tu me corrigeras si j'ai tort, là, mais il vient confirmer un peu ce que le dépisteur a vu, le rapport du dépisteur initial. Et puis là, ben toi, tu viens maintenant dans ton nouveau rôle, tu viens évaluer donc ce que le dépisteur a vu.
Exact. Le Bulldog, lui, travaille avec le dépisteur de territoire, mais tu as aussi des temps partiels, des gars entre les deux qui peuvent un petit territoire va m'aider parce que j'ai des grands territoires entre New York et la Pennsylvanie, il y a tellement d'écoles. Hey, prends 5000, va nous aider, donne-moi les joueurs. Moi, je travaille principalement avec le dépisteur de territoire, le gars qui fait la Nouvelle-Angleterre, un exemple. Moi, j'en ai 3. Nouvelle-Angleterre, la centre, là, Pennsylvanie, New Jersey, Maryland et Caroline du Nord, Virginie, West Virginia. 3 jeunes dépisteurs. Mon rôle principal, c'est de travailler avec ces trois joueurs-là et de regarder chacune de leurs listes et vraiment superviser ce qu'ils font. Puis dans les trois listes, disons, il y a une soixantaine de joueurs par liste, les 180. Moi, c'est de prendre peut-être les 80 meilleurs puis les mettre de 1 à 80. Puis les autres, ceux qui sont de 81 à peut-être 200, dépendamment du nombre de gars que mes dépisteurs vont faire des rapports dessus, c'est de lire les rapports, de voir des vidéos puis de les classer par rapport à ce qu'il y a dans le reste du pays. Mais un autre rôle important comme cross-checker que mon boss il veut, c'est moi, ma job, c'est d'être un mentor à ces trois gars-là. Moi, ma job, c'est de développer ces dépisteurs-là parce que je n'ai pas des dépisteurs vétérans qui travaillent sous moi. C'est tous des jeunes qui ont du baseball background, mais qui ont, tu sais, ça fait pas 40 ans qu'ils font ça.
Non.
Alors, ce que mon patron à moi veut, c'est que lui, il n'y a pas d'appel, que ce gars-là, il n'y a pas été à une game. Que toutes les dates, les demandes rentrées tous les lundis, la rotation des lanceurs dans sa région est faite, que tout le premier du mois, le pref list, la liste est à jour, qu'à chaque fois qu'il y a un mandat, ça soit fait. So, moi, mon rôle, c'est d'être en contact quotidien avec eux autres. Qu'est-ce que tu as vu hier? Qu'est-ce qu'on fait? N'oublie pas, quand tu rencontres tel joueur, telle famille, il faut que tu poses ces questions-là. Le lundi, je leur envoie un message la fin de semaine. N'oublie pas de faire ça. Ton bio doit être rempli sur tout. Mais c'est vraiment d'être un mentor pour mes gars puis d'être quelqu'un qui supervise leur travail. Et ton rapport, il ne fait aucun sens sur tel joueur que tu as écrit qu'il va en deuxième ronde, mais il n'y a pas un tool qui va te carry him aux ligues majeures. Tu as mis des average. Il n'y a pas de... Le starting shortstop dans le baseball majeur, là, il n'est pas average. Il y a soit un canon, soit une vitesse qui est en haut de 50, il est dans le 60-70. Il n'y a pas beaucoup de gars dans le majeur qui jouent, qui n'ont pas un tool qui est 60. Même ah le oui. Backup, Edmundo Sosa avec les Phillies, là, mais il y a du power plus que la moyenne. Il y a quelque chose de plus. Ses mains sont en haut de la moyenne. Si tu es un power hitter premier but, c'est sûr que tu peux être un 20 coureur, 40 défensives à la Rhys Hoskins, mais tu as 70 power. Tu es sur 70, c'est ton power qui te carry à une position dans la Ligue majeure. So, moi, il faut que je lise les rapports qui fassent du sens. Puis la grosse job après, c'est moi de dire les superviseurs nationaux, on en a deux, puis mon patron, quels joueurs doivent être nationally cross-checked? Alors, j'ai vu Mark Griffin aujourd'hui, mon dépisteur l'aime bien. Moi, je le vois, je confirme que Mark Griffin, c'est un top 3 rondes. Il doit être vu nationalement parce que ces gars-là voient le pays en entier. Puis ils peuvent prendre le gars de l'Est qu'on aime en troisième ronde, puis le gars en Californie. Puis là, eux autres vont faire 1-2. Moi, okay. Je n'ai pas vu le gars de la Californie. Je peux le lire, je peux voir du vidéo. Alors, le gros rôle sur le terrain, c'est de dire à mes patrons oui ou non. Comme hier, j'étais à un tournoi à Wilmington, en Caroline du Nord. J'ai vu un lanceur gaucher que j'ai vu en début que j'adore. Moi, je l'ai placé à jaser en première ronde. Je sais que mes patrons ne l'ont pas vu super, mais c'est un gaucher qui ressemble à Cole Hamels. J'envoie mon rapport hier soir. Notre gars l'aime en première ronde. Moi, je vous dis qu'il faut qu'on continue à le suivre le prochain mois. Merci. Deuxième game, deux bons joueurs que mon gars adore. Moi, je suis comme, they need to go to college. J'appelle mon boss. Perds pas ton temps. S'ils sont repêchés en deuxième ronde, c'est de ma faute. Mais moi, je trouve que ces deux gars-là doivent aller au collège. Ils n'ont pas les tools pour jouer dans le baseball professionnel aujourd'hui. Un lanceur de 88, 89 000 à l'heure, il est bon dans sa petite école, mais c'est pas ça qu'il joue professionnellement. Mon boss, parfait, on va garder sur ce joueur-là. Puis là, il faut que je dise à mon dépisteur, fâche-toi pas, là. C'est, va à d'autres matchs. Moi, mon boss, il me dit à moi des fois, là, hey, Alex, tel joueur, on l'a vu, avec, il était à IMG Academy, il vient de New York, il s'en va à LSU, je sais que tu l'as pas vu encore parce qu'il était dans le gym. We're not taking him. On le prend pas. Tel joueur. OK? So, tu peux bien aller le voir.
Mais ça doit être quand même difficile, Alex, des fois, de ne pas le prendre personnel. Parce que c'est dans le fond, toi, comme tu dis, tu les connais, tu es rentré un peu plus profondément. Tu connais le background, tu connais le kid, tu l'évalues ton potentiel. Puis là, tu essaies de vendre toi-même à ton organisation. Puis finalement, on dit non. Ça doit quand même être pas toujours évident, là.
Ça fait, c'est vraiment frustrant. Puis hier, j'étais avec mon dépisteur de la Caroline du Nord. Un bon gars de baseball, c'est le petit-fils à Jack McKean, qui est encore en vie, Jack McKean, avec qui j'ai gagné la Série mondiale avec les Marlins, ouais. Les gérants, Trader Jack, qui était DG, je pense qu'il a 93 ans, puis, tu sais, on parle de la vie souvent, on parle de, tu sais, lui, il aime des joueurs, puis comme, la seule affaire, j'y ai dit, c'est que ce qui reste, là, dans deux ans, trois ans, c'est ton rapport. Si le gars, dans quatre ans, il est dans les majeurs, là, puis Colin, il vient nous battre, là, on va regarder dans le système, puis comme, ouais, on l'a peut-être manqué, puis t'as fait ta job. Et pour venir, J'en ai écrit en maudit des rapports des gars dans le tournoi majeur que j'avais placé dans les bonnes rondes à la Justin Morneau, à plein des joueurs dans mon cross-check job qu'on n'a pas pris, qu'on aurait pu. Il y en a qu'on ne peut pas prendre. Jérémy Peña des Astros, là, personne ne le connaissait. Il est à l'Université de Maine. Je l'adorais depuis l'high school. Je l'avais mis en deuxième ronde. On n'avait pas de choix de deuxième ronde. On n'avait pas de choix de troisième ronde. On avait juste une quatrième ronde. Jérémy Peña est pris par les Astros un pic avant nous autres. En troisième ronde. Parce que l'autre, on choisissait tout en quatrième. C'est comme, ça veut-tu dire que Jérémy Peña, le gars qui l'a repêché avec les Astros, wow! Il n'y avait même pas de dépisteur, les Astros, dans le Nord-Est cette année-là. Il avait congédié des gars, ils ont juste pris des gars de stats, quelqu'un a parlé de lui, puis bang! C'est très frustrant. Encore plus aujourd'hui, parce que le dépisteur de territoire, il fait son rapport, puis il est très loin de toutes les data analytiques, les niveaux en haut de lui. Puis j'ai eu cette discussion-là avec mon gars, comme, hey, j'ai été 25 ans un dépisteur de territoire. Très frustrant à des moments donnés quand tu parles, puis ton boss, ben, lui, c'est lui qui a la tête du bio, c'est lui qui fait le choix. Puis dans 5 ans, il n'est plus là, toi, tu vas être encore là. Puis comme superviseur, ce que mes gars m'ont dit, on est chanceux d'avoir un gars comme toi qui a fait ça pendant 25 ans, qui comprend notre day-to-day, puis la frustration de ce qui se passe. Moi, je suis capable de leur dire, tu as toujours le choix. Des contrats d'un an, tu peux faire un autre job. Ça ne veut pas dire que tu vas être plus heureux. Les Phillies nous traitent bien. Mais fais attention à ce que tu dis. Quand tu parles à d'autres équipes, ça peut revenir au patron. Alors, c'est un rôle sans arrêt.
Ouais.
Peut-être avec l'âge, j'ai pris de la sagesse. Il y a des journées, Marc, là, quand j'étais dépisteur de territoire avec les Expos, les Marlins, même au début avec les Phillies, là, t'es pas au repêchage, t'es chez vous, première ronde, maman. T'es rendu en 32e ronde, là, puis t'as pas un joueur repêché de ton territoire. Que toi, t'as pris plein d'équipes, ont pris des gars, puis la draft est finie, puis t'as personne. T'as le goût de donner des volets à tout le monde, t'as le goût de frapper la porte, puis une chance de ton épouse qui disait, hey, si t'es pas content, fais d'autres choses, là. Alors, tu sais, c'est ça qui est très difficile, puis je te dirais même encore plus aujourd'hui.
Alex, en terminant, j'aimerais ça savoir c'est quoi la suite dans le fond. Est-ce qu'on aspire à quelque chose d'autre dans le baseball? Est-ce que Alex, évidemment, on avance tous en âge, Alex, là, fait que est-ce qu'on pense éventuellement à se retirer? Est-ce qu'on veut en faire un petit peu plus? Est-ce qu'on veut toucher dans un rôle qui touche un peu plus l'équipe des majeurs? Qu'est-ce qui serait le rêve pour les 5 prochaines années là, pour Alex Agostino?
Excellente question. J'adorerais évidemment continuer, mais ça tire à sa fin en termes du grind, des hôtels, des avions. J'adore les games, j'adore le travail, mais tout ce qui est entour maintenant d'être à une partie, là, que c'est le voyagement, que c'est manger au restaurant, toutes ces situations-là, c'est
bien lourd, hein?
Difficile. C'est lourd. Les Phillies ont la partie étoile en 2026. Alors, vraiment, je m'attends à être de retour à l'année prochaine. Mon patron m'a comme confirmé tant si longtemps qu'il est là que j'avais un emploi. Mais dans cette game-là, tu ne sais jamais. Exactement. Parce qu'on a des contrats d'un an, deux ans. Mais honnêtement, ce que j'aimerais faire, c'est d'être utile au baseball encore 4-5 ans. Puis quand je dis ça, ça ne veut pas dire les Phillies, ça ne veut pas dire le baseball majeur. Parce que à l'âge où je suis rendu puis de la façon que la game va, c'est sûr que je ne m'en vais pas pour un rôle d'un majeur. Je n'ai pas un chum qui est DG nécessairement dans une équipe. Il dit, hey, Alex, viens-t'en, puis tu vas être mon bras droit, ben reste chez vous, là, fais des vidéos, dis-moi qui qu'on est. Ça ne marche plus, ça. Puis, mais ce que j'aimerais, puis je le vois bien à long terme, c'est peut-être finir avec les Phillies à un rôle réduit, mais tu sais, revenir au Québec, au Canada, faire. Hey, il n'y en a pas une quarantaine de joueurs, mais je suis capable de vous donner les 5-6 qu'on peut déjà dire qu'ils vont être bons dans 3-4 ans. S'ils vont au collège, identifier du talent, voir l'équipe nationale. Et évidemment, à cause de tout ce que j'ai eu de Baseball Québec et de l'ABC, ça serait pour moi un juste milieu de peut-être finir comme, tu sais, d'aider ces programmes au Québec. Aider le Québec à continuer peut-être à s'améliorer au niveau des évaluations, des associations, de comment faire. Puis j'ai toujours pensé, je dis, à la fin de tout ça, je vais dire, je suis un agent libre. Tu as besoin de quelqu'un dans une association qui veut aider à faire vos camps d'évaluation. Tu as besoin de quelqu'un pour aider vos entraîneurs. Tu as besoin de quelqu'un pour parler à des jeunes joueurs sur le processus de ce qui s'en vient, de rêver quand tu as 12-13 ans. Pourquoi pas? Pourquoi que nos jeunes du Québec ne peuvent pas rêver? On a beaucoup dans les collèges. Mais je ne me vois pas m'effacer. Je prends ma retraite puis je ne fais plus rien. Je veux voir notre sport. Je trouve que notre sport au Québec est en pleine croissance, la fédération fait un bon travail, baseball masculin, baseball féminin, nos académies, nos jeunes font belle figure. La semaine passée, l'ABC est en à Fredericksburg, au Maryland ou en Virginie. Plein de débutants que je connais sont allés les voir, sont heureux de jaser. Ils m'ont dit, hey, c'est une bonne équipe, ils ont planté l'académie locale, ils ont gagné 6 de leurs 7 parties, ils ont bien fait. Moi, je veux que ça continue, qu'on nous oublie pas, malgré qu'on n'a pas d'expo, qu'on n'oublie pas qu'on a du bon baseball et du bon monde présentement à travers la province. Mm-hmm. Puis moi, je suis tu veux dire, c'est l'ABC qui a fait que j'ai eu ma première job comme entraîneur des lanceurs avec Richard Raymond. J'aimerais vraiment ça être quelqu'un qui peut aider, jamais prendre la place à personne parce qu'ils sont tellement bien dirigés par des Marc-Antoine Bérubé, Cargina, Ben Pelletier, Mathieu Dion et Ray Calary, que j'aimerais ça être quelqu'un qui peut être un atout s'ils pensent que je peux leur amener quelque chose, de faire ça. Évidemment, plus de temps pour moi-même, ma femme, mes petits-enfants, mes enfants, ça fait du bien parce qu'ils ont assez donné, comme on dit, en termes de manque de ma présence. Ouais. Alors, tu sais, 60 ans cette année, c'est sûr que ça tire à sa fin, mais maudit que j'aimerais ça une autre série mondiale. C'est le fun, je vais me gâter pour une troisième. Là, j'ai été chanceux, tu sais, j'en ai une avec les Phillies, une avec les Marlins, puis un championnat de la Ligue nationale avec les Phillies. Tu sais, c'est un sport qui est, tu le sais, Marc, le baseball est dans nous, il est dans notre sang. C'est dur à enlever quand tu fais ça à tous les jours, de dire, pourquoi que les gens aux États même continuent à travailler 70, 75 ans, que ce soit à radio, TV, entraîneur. On a un entraîneur dans les mineurs, Rolly DeArmis, qui est là depuis 50 ans avec les Phillies, up and down. C'est un gars qui a coaché l'équipe américaine nationale, il a joué dans les mineurs. C'est comme, ce gars-là, il peut prendre sa retraite, mais il n'est pas capable. Il lance des BP, il est au terrain, là, il a un rôle
réduit. Il a besoin d'être ça.
Il a besoin d'être là. Puis ouais. Je me dis, tu sais, on a un tournoi de baseball à l'Ex-Agostino à Saint-Bruno, j'ai des académies l'été. Tu sais, d'être présent et voir nos jeunes de 12-13 ans, à 11, 12, 13 ans, aimer le baseball puis partir avec un sourire. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir dans ma vie de tous les jours. Si quelqu'un vient sur un terrain de balle, il part avec un sourire, puis il veut continuer à jouer, que ça soit dans le midget B, dans le junior élite, dans le professionnel, tu peux avoir du plaisir sur un terrain. Puis je veux continuer à donner ça. Puis je pense que avec notre expérience, Marc, c'est la radio puis la TV, évidemment, j'aimerais ça continuer à parler puis analyser le baseball avec des gens comme toi puis des gens passionné à travers le Québec.
Ben, en tout cas, il n'y a aucun doute sur ta passion, Alex. Il n'y a aucun doute sur l'impact que tu as eu et que tu continues à avoir, d'ailleurs, sur pas mal de monde, que ce soit jeune, moins jeune, entraîneur, peu importe. Gros merci, Alex, d'avoir pris tout ce temps-là. C'est fascinant, ton histoire. Je pense qu'on aurait pu faire 3 heures, bien honnêtement. Là.
On a plein des choses qu'on peut faire. On pourrait faire ça à l'année de jaser. J'ai tellement d'histoires. Il y en a que je peux peut-être pas compter là, live, là, mais il y en a d'autres.
Ah non, écoute, c'est pour ça que je dis. Là. Je pense qu'on aurait pu prendre 3 heures parce qu'il y en a assez. C'est ton vécu est assez unique. Je sais pas si un jour ça te tenterait de raconter ta vie dans le baseball, mais ça peut vraiment inspirer des gens, là.
Ouais, j'y pense parce que à un moment donné, un certain temps, quand tu as fait 40 ans dans un domaine, là, ce qui me rend beaucoup fier, c'est que je sais que beaucoup de monde dans le baseball professionnel, ça ne dure pas longtemps, mais du cul de Saint-Léonard, pour ça Saint-Bruno, 31e saison professionnellement, je peux me lever le matin et vous dire, mission accomplie, mais je n'ai pas terminé ma mission au Québec, je trouve.
Mais je te confirme, Alex, mission accomplie déjà, mais il y a d'autres choses à venir, ça je suis certain aussi.
100%. Mais Marc, justement, le rêve de voir une équipe la Ligue Frontier, je rêve aux expos, là, mais d'avoir des infrastructures, d'être faire partie de voir quelque chose, ça arrive sud, rive nord, un stade, une équipe, aider, avoir des jeunes du Québec qui jouent dans l'équipe, faire un peu ce que les capitales ont, d'avoir ça chez nous, entre, je sais pas moi, entre Boucherville puis Sainte-Julie, tu sais, la vallée du Richelieu, Brossard, Candiac, d'avoir un point de rassemblement pour nos jeunes, une équipe professionnelle qui est peut-être pas les expos, mais qui est fun d'avoir 3-4 000 personnes dans une belle soirée d'été, puis faire partie de cette organisation-là, un peu comme notre ami Michel Laplante, il a 25 ans, de voir ça avant notre départ de ce monde du baseball, de voir qu'il y a un leg. Tu sais, j'ai pas fini ton travail, puis j'ai fini, mais d'avoir un leg qui dit, hey, on a aidé à bâtir une équipe, un stade, une infrastructure pour nos jeunes, puis quand on part de cette vie, ben on va pouvoir dire, là, on a vraiment fait de quoi de bien.
Ben écoute, Alex, je suis avec toi, puis... On pourrait peut-être surprendre du monde dans les prochains mois, prochaines années là-dessus. On s'en reparle certainement, Alex. Mais merci encore. C'était fantastique. J'invite donc les gens à suivre Alex Agostino. On peut l'entendre sur les ondes du 98.5. Également, collabore régulièrement avec RDS. avec Alain et moi. Donc, merci encore une fois, Alex Agostino, et on se dit à la prochaine.
Salut, merci, puis bonne saison à tout le monde.